Allô, allô, ici Ciné Herri.
Le metteur en scène Raymond Bernard, fils de l'écrivain Tristan Bernard, réalise en 1946 un film français intitulé « Un ami viendra ce soir ». Auteur à l'époque d'une filmographie déjà considérable, on lui doit notamment en 1924 « Le miracle des loups », puis en 1931 « Les Croix de bois » avec Pierre Blanchard, interprétant le rôle principal dans l'adaptation du célèbre roman éponyme de Roland Dorgelès. Cette réalisation connaît alors un important succès, auquel succédera en 1934 la première version cinématographique des Misérables. Une œuvre qui bénéficiera d'une distribution prestigieuse où l'on retiendra plus particulièrement le nom d'Harry Bore et ceux de Charles Dullin et Charles Vanel. Peu après l'éclatement de la guerre, les Allemands occupent la France et Raymond Bernard se voit immédiatement signifier une interdiction de tourner car il est israélite. Il faudra donc attendre la fin du conflit pour qu'il reprenne son activité. Mais bien qu'il ait été durement frappé par des années de privation et d'ostracisme, il réalisera dès 1946 « Un ami viendra ce soir ». Ce titre correspond à l'un des messages codés de la Résistance. Sur une musique d'Arthur Honegger, cette œuvre est tirée d'une pièce de Jacques Companèse et d'Yvan Noé. Raymond Bernard l'a ensuite adaptée pour l'écran afin de magnifier l'action de résistants bien décidés à participer de manière décisive à la libération de la France. Les scènes extérieures de ce film ont été tournées à Saint-Firmin, dans les Hautes-Alpes, là où de réels affrontements ont eu lieu entre le maquis et l'armée allemande. Certains figurants avaient d'ailleurs participé à ces combats quelques mois avant le tournage. Rappelons brièvement le synopsis. Le commandant Gérard, alias le commissaire Martin, joué par l'excellent Louis Salou, est responsable des maquis des Alpes. Il a établi son quartier général et son poste de commandement dans un asile psychiatrique. Grâce à cette couverture idéale, il a réussi à se cacher au beau milieu des aliénés, avec quelques-uns de ses camarades qui ignorent, eux aussi, son identité et le rôle éminent qu'il joue dans leur combat. Autrement dit, personne ne sait qui est qui. Personne n'est dans la confidence. Tout le monde est dans le secret. Personne ne connaît l'identité réelle de l'un ou de l'autre, et surtout pas le spectateur condamné à se perdre en conjectures jusqu'à la fin du film. Raymond Bernard multipliant à souhait les fausses pistes et entretenant à l'envi le suspense. Et comme le dit un personnage, on ne sait jamais à qui on a affaire. L'incertitude domine donc et le danger menace en permanence. Parmi les résistants et les aliénés se dissimule une jeune juive interprétée par Madeleine Sologne qui essaie d'échapper aux griffes nazies. Enfin, dans ce petit monde clos où se côtoient le vrai et le faux, se tient aussi un espion à la solde des Allemands, un homme apparemment au-dessus de tout soupçon, et qui multiplie tout au long du film les gages de loyauté envers les pensionnaires de l'asile et le personnel. Dans cette institution psychiatrique évoluent notamment Philippe Prunier, Pierre Ribaud et le pianiste, interprétés respectivement par Saturnin Fabre, Daniel Gélin et Jacques Clancy. Signalons également la participation du comédien suisse Howard Vernon, qui incarnera en 1949 le personnage principal du Silence de la mer, réalisé par Jean-Pierre Melville. Quelques années plus tard, il tournera aussi dans Le Train, complétant ainsi la part de sa filmographie dédiée à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, dans cette galerie de portraits, s'impose la figure de Michel Le Marais, un doux dingue pacifiste interprété par Michel Simon, qui, malicieux et ambigu, philosophe avec légèreté sur le bien et le mal. Profitant de son statut de malade mental, il tient à la face des Allemands un discours provocateur qui dénonce plus ou moins explicitement le nazisme. « Je suis président de la République. Il ne reste plus que la mienne. Elle est toute petite. Tranquillisez-vous, elle n'a pas d'armée. J'ai même supprimé le ministère de la guerre et puis tous les autres ministères. Mais cela n'empêche pas que tout marche très bien. Et rassurez-vous, je n'ai nulle intention de tuer tous les autres habitants du globe pour leur imposer mes conceptions. Ce rôle de Le Marais était initialement prévu pour Louis Jouvet, de retour d'un exil de 4 années passées en Amérique du Sud. Mais ce dernier déclina finalement la proposition qui lui était faite, préférant créer au théâtre de l'Athénée le 22 décembre 1945 La Folle de Chaillot, une pièce que Jean Giraudoux avait écrite pendant l'occupation. Dans une scène particulièrement savoureuse, le commandant Gérard, alias le commissaire Martin, propose sa collaboration aux Allemands qui viennent d'investir l'asile. Il leur montre, en effet, les dossiers qu'il a constitués sur chacun des pensionnaires et affirme en savoir long sur leur identité, leurs secrets et autres travers susceptibles d'intéresser les troupes d'occupation. Ce morceau d'anthologie met donc en scène le chef de la résistance qui joue au collabo zélé, un collabo qui a déjà fiché tout le monde et se dit prêt à dénoncer son entourage tous azimuts. Intéressé, l'officier allemand lui demande s'il a entendu parler du commandant Gérard. Le français s'exclame alors: Le commandant Gérard? Mais personne ne le connaît mieux que moi. C'est tout le monde ici. Chacun a son tour de rôle. Le commandant Gérard, le mercredi, c'est moi. C'est idiot, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant vrai, et tout est consigné ici par mes bons soins, dit-il en montrant un volumineux dossier illisible qu'il prétend avoir codé. Je ne vous demande qu'un an pour tout déchiffrer. Dernière pitrerie où il se joue des Allemands avec le plus imperturbable sérieux. Ce soliloque drôlatique revêt toutes les apparences du délire rationnel d'un malade mental, à tel point qu'il décontenance son interlocuteur allemand. Ce dernier ne sait plus en effet à qui il a affaire, un malade pitoyable ou bien un redoutable simulateur qui se joue de lui. Il hésite donc, ne sachant plus ce qu'il doit penser et comment il doit réagir. Dans cet univers pyrandélien, le spectateur est systématiquement induit en erreur, le réalisateur cherchant à lui faire perdre pied au point qu'il devienne incapable de discerner le vrai du faux. Le malade mental du Saint-Esprit, pour autant qu'il existe une frontière bien étanche entre ces deux états. Comment ne pas songer ici au célèbre roman que Pirandello écrivit en 1926, Uno, nessuno e centomila. Une, personne et 100 000. L'on y voit le personnage principal, Vitellangelo Moscarda, traverser une crise d'identité lorsqu'il prend soudainement conscience que son entourage a façonné une image de lui complètement différente de celle qu'il s'était construite. Dès lors, devant ce hiatus cognitif devenu invivable, Vitellangelo se met en quête de son identité, ou plutôt d'une identité. Parallèlement à l'univers psychiatrique présenté comme indéfinissable et insaisissable, un monde fait de trompe-l'œil, faux-semblants, malentendus et ambiguïtés savamment entretenues, Raymond Bernard met au contraire en scène des soldats allemands dans toute la crudité de leur vandalisme. Il dépeint en effet à l'écran une soldatesque avinée et vociférante, cruelle et sans pitié, qui met un village en coupe réglée pour y multiplier les exactions. Cette horde furieuse fusille des paysans sur de simples présomptions, brûle leurs maisons pour finalement tout détruire sur son passage. En fait, ces crimes de guerre qui prennent pour cible une population civile sans défense sont destinés à sidérer les villageois, briser leur silence et les contraindre à dénoncer les jeunes gens partis rejoindre le maquis. Aux antipodes de cette franche dénonciation, Raymond Bernard maintient ses personnages principaux dans le clair-obscur jusqu'au moment ultime où la jeune juive Hélène Asselin, qui cache son identité véritable, déclare à son amoureux: Si j'étais différente de ce que vous imaginez, si j'étais une autre, m'aimeriez-vous? Il lui répond sur un ton tout aussi mystérieux: Et moi aussi, après tout. Je suis peut-être un autre que vous ne soupçonnez pas. Peu après, il déclarera: Les masques doivent tomber à minuit, que voulez-vous? Un accident survient et les vrais visages sont obligés de se révéler un peu plus tôt. Les braves fous sont donc des simulateurs, l'éminent psychiatre et son infirmière des conspirateurs, et l'aimable voisin est un espion. Avec un ami viendra ce soir, Raymond Bernard a tenu à rendre un vibrant hommage à la résistance française. Dans le même temps, il s'est employé à dénoncer les crimes nazis. Mais son film n'est pas toujours exempt de longueur, voire parfois d'un certain didactisme manichéen. Cependant, il reste d'une grande modernité grâce aux relations ambiguës et complexes que les personnages entretiennent les uns avec les autres. Entre vérité et mensonge, vrai et vraisemblable, ils baignent tous dans une atmosphère de nonsense où les jeux des malades mentaux, comme ceux des simulateurs, apparaissent au demeurant moins absurdes que la réalité de la guerre.